Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le refus de soins. Pour qu'un soin puisse se dérouler, les soignants commencent par informer le patient sur les choix thérapeutiques, sur les enjeux et les conséquences des traitements. Et à partir de cette information, les soignants cherchent à recueillir le consentement du patient. Cette question du consentement n'est pas une simple formalité administrative, puisqu'elle est le point de départ d'une construction du projet de soins, de l'engagement dans le parcours et finalement d'une relation de confiance et de collaboration qui permettent aux soins de prendre tout son sens à la fois pour le soignant et pour le patient. Ce recueil du consentement ne peut avoir une telle importance et une telle signification que parce qu'il renvoie le patient à son choix autonome. Cette autonomie dans la réflexion et dans la délibération est la condition fondamentale de la dignité humaine pour Emmanuel Kant. Respecter l'autonomie du patient, respecter sa capacité à consentir, revient ainsi à soigner en donnant une place digne au patient. Pour consentir aux soins, il faut donc faire usage de sa raison, penser et comprendre les informations qui sont délivrées, se les approprier. Et le patient peut donc soit consentir, soit ne pas consentir. Mais que se passe-t-il si le patient ne consent pas, c'est-à-dire s'il refuse un soin ? Que se passe-t-il si son appréhension de sa situation de santé et des traitements lui paraissent contraires à son propre bien ? Que ce soit en raison de croyances personnelles, de peurs, de méconnaissances ou parfois même de facteurs sociaux et culturels, de nombreux patients se questionnent quand il s'agit d'accepter un traitement médical. L'autonomie peut être remise en question si le patient est vulnérable ou influencé par des facteurs extérieurs comme des croyances religieuses, culturelles ou familiales. Le refus d'un traitement qui pourrait être bénéfique au patient met le soignant dans une situation difficile, lui donnant un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. En raison de ses compétences et de son expertise, le soignant prévoit les souffrances inutiles ou la dégradation de l'état du patient que ce refus va provoquer. Si le patient refuse un soin, va-t-il être abandonné par les soignants ? Y a-t-il des situations dans lesquelles les soignants peuvent aller à l'encontre du refus de soins exprimé par un patient ? En quoi de telles situations pourraient rompre l'alliance thérapeutique ? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Théron, qui est professeure de droit public spécialiste du droit de la santé à l'Université Toulouse-Capitole, Gilles Bourgade, qui est infirmier en pratique avancée en oncogériatrie au CHU de Toulouse, et Sophie Guglielmoni, qui est psychologue en libéral et en institution pour la protection de l'enfance. Elle vient d'ailleurs de publier un ouvrage « Soutenir les mineurs isolés face au psychotraumatisme, une éthique relationnelle à l'aide sociale à l'enfance » aux éditions de l'Harmattan. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Pour commencer, je me tourne vers vous, Sophie Théron, pour avoir une vision juridique de cette question du refus de soins. Lorsqu'on parle de refus de soins, on parle de l'autonomie du patient. Et que dit le droit à propos de cette liberté d'accepter ou de refuser un soin ?
Alors, le droit sur cette question est assez clair. Il pose le principe de cette liberté d'accepter ou de refuser, et plus précisément celui du nécessaire respect du consentement de la personne. D'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, c'est très lié à l'autonomie et au principe de dignité, mais c'est aussi très lié au respect de l'intégrité du corps humain. Et sur ce point, le Code civil précise qu'il ne peut être porté à cette intégrité que pour une nécessité médicale de la personne, et le consentement de cette personne est donc préalablement recueilli. Et ce nécessaire respect du consentement, c'est évidemment aussi une obligation déontologique du médecin qui est prévue dans le Code de déontologie médicale. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
D'accord.
Et surtout, c'est désormais une obligation légale qui a été prévue par la loi dite Kouchner, la loi du 4 mars 2002, qui a ensuite été révisée en 2005 puis en 2016, avec la loi Claeys puis la loi Claeys-Leonetti. Et le Code de la santé publique précise que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. La loi précise aussi que le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de son choix. Alors peut-être qu'on en reviendra sur cette obligation d'information. Mmh. Et elle précise aussi, toujours dans le même article du Code de la santé publique, l'article L1111-4, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ça aussi, peut-être qu'on en reparlera.
Mmh. D'accord, donc ça veut dire que du point de vue de la loi, on est passé d'un modèle plutôt paternaliste à un modèle plus centré autour du souhait du patient.
Oui, en fait, la loi Kouchner a introduit l'idée de co-décision médicale.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ouais. Donc ça change vraiment la manière de voir les choses
par rapport à ce qu'il en était avant 2002, d'autant plus que le consentement de la personne peut être retiré à tout moment. C'est ce que dit aussi le texte.
D'accord. Et est-ce qu'on a le droit de refuser n'importe quel type de soins, alors ?
Bien, comme on vient de le voir, il n'y a pas de restriction en fait, à cette liberté de refus, dans la mesure où la personne est apte à exprimer son consentement, et ce, après une information, si vous voulez, claire, loyale et appropriée. Alors, on y reviendra peut-être aussi dans la discussion. Il y a aussi la question de la mise en danger de la personne si elle refuse des soins et de l'attitude du patient à avoir. Mais en tout cas, juridiquement, la loi ne prévoit pas la nécessité d'argumenter le refus.
D'accord.
Même si, mais là peut-être ça dépasse des considérations juridiques, évidemment, ça peut faciliter, si le patient explique pourquoi il ne veut pas, ça peut faciliter la relation avec le soignant et donc l'alliance thérapeutique, la relation de confiance.
Oui, bien sûr. Disons que tout ça se passe dans le cadre d'une discussion.
Absolument.
Ouais. Là, je me tourne plutôt vers les soignants, Gilles et Sophie. Le patient doit être informé de manière adéquate, c'est ce que nous dit Sophie Théron. Il doit être informé des risques et des conséquences de son choix, de son refus. Et un refus de soins basé sur une information insuffisante ou une information erronée, forcément pourrait soulever la question de savoir si ce refus ou ce consentement, il est véritablement éclairé au sens de la loi. Et donc, je me tourne vers vous pour savoir, d'après vous, comment on peut s'assurer, en tant que soignant, d'avoir permis aux patients de vraiment comprendre de la meilleure manière possible la proposition thérapeutique.
Alors, du point de vue du soin, il faut savoir que le patient, quand la maladie arrive, il y a un diagnostic qui est posé et la loi prévoit un entretien médical qui est celui de l'annonce. Et il est incontournable, le patient doit avoir l'annonce faite par un médecin. Ça, c'est le premier temps. Dans un second temps, il y a l'annonce qui existe paramédicale, qui l'a permis de reprendre avec le patient ce qui lui a été dit. Alors concrètement, ces deux temps doivent être bien séparés parce que dans l'intervalle, le patient peut cheminer, avoir avoir écarté des peurs, discuter avec son environnement proche. Et ça permet peut-être d'être un peu moins dans la sidération. Suivant les pathologies, ça peut être très, très clivant.
Oui, c'est-à-dire il peut être dans une sorte d'état de choc. Pardon, je dis ça devant une psychologue, je ne sais pas si c'est adéquat, mais quelque chose comme ça. Enfin, oui, être sidéré, comme vous dites, c'est-à-dire pas être capable vraiment d'entendre l'annonce, quoi, pas avoir toutes les informations, peut-être.
Surtout quand sur des maladies qui ne sont pas senties ou vues. Si je prenais l'oncologie, par exemple, si je suis sur un cancer solide avec une tumeur qui comprime, qui est douloureuse ou qui se voit, ça me parle. Si je suis sur un cancer, sur des choses qui sont plus hématologiques, il est difficile d'appréhender pour le patient la vision et d'imaginer. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne à l'hôpital, il n'était pas malade. Ça peut être un peu compliqué parfois. L'avis de la psychologue sera intéressant de savoir ce qui se joue à ce moment-là. Ouais. En tout cas, lors de cet entretien paramédical, il est de mise de débuter de ce que a compris le patient, de ce qu'il sait.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce que vous en avez compris ? Et que pensez-vous du traitement qui est proposé si on va jusque-là ? On peut être amené à voir les patients plusieurs fois.
Est-ce que vous, en tant qu'infirmier, vous participez à l'entretien d'annonce ?
Alors oui.
Vous êtes présent ?
Je suis. Alors, normalement, ce temps d'annonce est bien, sont bien séparés. Hein. Il y a l'annonce médicale. Oui. Mais oui, je pratique l'annonce aux patients de la maladie.
Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est vous êtes aux côtés dans le premier temps du médecin, par exemple, quand il annonce
ou... Ça peut se faire dans la pratique, mais ce n'est pas prévu et ce n'est pas une obligation.
D'accord.
Parfois, je trouve qu'il est bien, suivant le profil de patient peut-être, d'être présent, mais discret, sans intervenir, pour savoir vraiment ce qui a été dit et pour pouvoir reprendre vraiment, en regardant le patient, son faciès, qu'est-ce qu'il a compris, où est-ce qu'il s'est arrêté parfois, a-t-il bien entendu ce qu'il disait, ou est-ce que ça s'est arrêté à un moment donné, que la suite n'a pas été entendue. Donc ça, mais ce n'est pas prévu. En tout cas, ce que je constate, c'est que les meilleures relations après de soins sont celles où, où on a assisté avec le médecin, parce que ça nous permet de mieux cibler la faille peut-être que où pourrait s'insérer le patient entre ce qui a été dit et entendu ou entre deux soignants.
Ouais. Et donc, dans cet entretien paramédical, vous vous reprenez pour essayer de savoir si la personne a bien compris les informations.
Tout à fait. On essaie de reformuler le patient sur la pathologie, sur les ambitions thérapeutiques. Mmh. Est-ce qu'elles lui correspondent aussi ? Parce que parfois, nous, on voit des choses. Hein, une maladie correspond à un traitement, mais ce n'est pas obligé qu'elle colle à la personne particulièrement.
Mmh. Et c'est dans ce moment... Alors, vous disiez qu'il peut y avoir plusieurs temps comme ça, de reprise, en fait, de l'annonce. Et c'est dans ces moments-là que vous voyez des patients refuser des soins ou refuser des traitements ?
Alors, le refus de soins, il est compliqué de définir et le consentement et le refus. Je suis pas dans. On n'est pas dans des choses. C'est dans l'intervalle que tout se joue, à mon sens. Parce que refus, c'est. Je ne sais pas si ça existe réellement, refus de soins chez le patient, en tout cas dans ma pratique.
De manière frontale, vous voulez dire.
Tout à fait. On peut trouver des moments où le patient fonctionne ou répond avec une idée qu'il a eue depuis, je dis n'importe quoi, 10 ans, 15 ans. Sauf que 15 ans après, ce n'est plus la même personne. La manière de présenter les choses ont changé, les traitements ont changé, les perspectives ont changé. Et la première réaction a été le refus, mais au vu d'un éclairage nouveau de 10, 15 ans plus tard, on peut avoir une adhésion qui peut surprendre l'environnement parfois.
Donc, c'est une évolution, quoi.
Tout à fait.
Un cheminement, vous disiez.
Constante. Et on s'engage aussi à revoir les patients quand ils débutent des traitements, par exemple, toutes les 3 semaines, si nécessaire, quand ils viennent. Surtout dans le domaine de la gériatrie, on a bâti un peu ça pour pouvoir accompagner aussi cette décision de la part du patient, bien sûr.
Sophie Guglielmoni, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'accompagnement finalement du patient dans son appréhension de sa propre état de santé ?
Je pense que ça met en évidence finalement la difficulté pour un patient ou un mineur accompagné, par exemple, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance en général, de faire face aux affects que va susciter finalement soit l'annonce d'un diagnostic pour une pathologie physique, par exemple, ou alors la proposition d'accéder à un soin psychique. C'est-à-dire que ces affects viennent entraver, à mon sens, la capacité à comprendre de façon claire la situation. Et c'est l'émergence de ces affects qui va rendre cette situation plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord et qui peut venir mettre en difficulté l'adhésion aux soins. En tout cas, en matière de soins psychiques, si la proposition émerge de l'extérieur et pas du patient lui-même, la résistance, elle est assez fréquente finalement.
D'accord. Donc, vous disiez que si la proposition de soins vient de l'extérieur, c'est plus difficile en fait de s'en emparer ?
Oui, effectivement. Parce que ça va susciter des mécanismes de défense, bien souvent, d'évitement, de déni, qui vont porter atteinte à l'adhésion à la proposition de soins. Et puis, il y a tout un tas de croyances aussi qui peuvent rentrer en compte, des croyances culturelles, et puis la difficulté de s'en remettre à un autre pour être accompagné. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir malade, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'est vrai que finalement, on peut se demander à quel moment la personne est malade. Est-ce que c'est l'extérieur qui va dire à une personne « vous avez besoin de soins » ou est-ce que c'est la personne dans son ressenti qui va pouvoir à un moment donné accéder à cette idée de maladie ou tout au moins de besoin de soins.
Et oui, et là, avec les exemples qu'on a pris, par exemple, de l'hématologie, il y a une pathologie qui n'est pas du tout ressentie. Et l'annonce, c'est un peu comme si on vous annonçait que votre corps n'est pas du tout ce que vous croyez, que ce que vous vivez intimement dans votre chair, c'est pas du tout ce que vous aviez pensé. Donc ça peut susciter un choc. Cette annonce-là peut...
Tout à fait. C'est la confrontation, finalement, entre une norme externe et une norme interne. Et à ce moment-là, peut y avoir, effectivement, on va dire, une dissonance.
Voilà.
Entre ces deux entités.
On peut, j'imagine, avoir des difficultés. Alors là, on parle de patients qui peuvent s'exprimer, mais je pense qu'on peut aussi avoir des difficultés avec des patients qui ne peuvent pas s'exprimer. Soit parce qu'ils sont, ils souffrent de démence en raison d'une pathologie chronique, par exemple, ou parce qu'ils sont placés sous sédation. Là, quand on est placé sous sédation, c'est-à-dire dans un état de coma artificiel, on ne peut pas s'exprimer. Comment est-ce qu'on peut soigner dans ces cas où, finalement, il n'y a pas de possibilité de recueillir un consentement? Qu'est-ce qui nous permet de faire des choix, entre guillemets, en l'absence de cette personne? C'est-à-dire qu'on n'a pas de parole et on n'a pas de repère.
Alors, du point de vue du droit, c'est effectivement une question qui est délicate et le législateur a prévu que, sauf urgence, évidemment, le médecin ne pouvait pas agir seul ni d'emblée. C'est-à-dire qu'il devait recueillir, enfin consulter la personne de confiance.
Ah oui.
Ou, à défaut, un proche de cette personne ou sa famille. Et donc la personne de confiance, si elle a été désignée, peut être consultée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne de confiance, elle ne fait que témoigner de la volonté de la personne malade. En aucun cas, il ne s'agira de recueillir le consentement ou le refus de la personne de confiance elle-même. Elle ne fait qu'elle n'est qu'un un point de passage de la volonté de la personne malade. Et toute la difficulté, évidemment, et c'est un outil qui est trop peu utilisé, je crois, dans la pratique, mais bon, les soignants qui sont là le savent mieux que moi, c'est l'outil des directives anticipées. En fait, ça aide vraiment le médecin et le soignant. La directive, les directives anticipées, hein, est un des documents qui sont rédigés à un moment où la personne est apte à agir, et elle prévoit pour le futur ce qu'elle voudrait lorsqu'elle ne serait plus en état de consentir. Et là, le recours aux directives anticipées peut vraiment aider les soignants dans ce cas-là pour savoir si elle accepte ou si elle refuse tel ou tel type de soins. Bon, même si après, en pratique, l'interprétation après des directives anticipées est aussi peut être très difficile. Mais en tout cas, juridiquement, c'est cet outil-là qui peut servir.
Tout à fait d'accord. La personne de confiance est quelque chose qui est rentré maintenant, qui est bien ancré. Chaque patient entrant signe un papier en désignant une personne de confiance. Les directives anticipées, c'est plus compliqué parce que quand on signe quand même quelque chose de très dangereux pour le patient et qui lui pose problème, ça veut dire que je vais mourir.
Oui, ça oblige à se projeter.
Donc c'est plus compliqué. Quand certains patients, de plus en plus je dirais, les ont faites et sont déposées chez eux. on n'en a pas nécessairement confiance, nous, en service de soins. Mais c'est vrai que ceux qui l'ont fait, mais ils le signalent.
D'accord.
Ils le signalent. Ce sont des gens qui ont pensé la maladie, qui ont pensé le devenir bien avant d'être malade. Mais la question reste en suspens. C'était lorsque j'étais en bonne santé.
Mmh, oui, ça a pu.
Qu'est-ce que je pourrais penser aujourd'hui avec la maladie? Et là, c'est là où le juriste nous aide. Mais en même temps, la réponse, elle est, il y en a autant qu'il y a d'humains, peut-être.
Merci beaucoup, Gilles Bourgade, Sophie Guglielmoni et Sophie Théron. Nous nous retrouverons dans une deuxième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.